d'emploi. Mode d'emploi.
Bonsoir, Fréquence Paris Pluriel 106.3, vous êtes sur l'émission Mode d'emploi, l'émission des chômeurs et des précaires, avec ce soir des journalistes du PIAF et des membres de ATTAC.
Et ce soir, nous recevons justement un des porte-parole d'ATTAC, Raphaël Prado, qui va nous parler depuis par téléphone, depuis Aix, de l'évasion fiscale et des procès qui ont été intentés par Apple envers justement des militants ces dernières années pour essayer certainement de leur faire rentrer dans la gorge toutes leurs protestations contre toute cette dérive des entreprises, des banques et des grands groupes industriels multinationales pour ne pas payer ni taxes ni impôts. Mais nous commençons bien évidemment par les chroniques d'actualité de Jean-Marc qui va nous parler d'un petit pays qu'il connaît bien, la Tchécoslovaquie.
La Tchécoslovaquie qui n'existe plus, Pierre.
Oh là,
depuis quelques années.
Fais pas ton prof d'histoire.
Ça s'appelle la République tchèque.
De la Tchéquie, c'est ça?
Alors, donc vous avez aimé ces dernières années les élections américaines qui nous ont donné Trump. Vous avez adoré les élections françaises qui nous ont donné Macron. Vous avez trouvé délicieuses les élections autrichiennes qui ont remis des nazis au pouvoir pour la première fois depuis 1945. Vous allez adorer les élections tchèques et russes de 2018. En effet, dans ce petit pays d'Europe centrale, la République tchèque, qui a eu jadis un excellent président qui s'appelait Václav Havel, qui était un intellectuel, depuis il n'y a plus que des corrompus et des gens assez peu dignes d'intérêt. Alors, faute d'une véritable opposition, c'est le vieux président, 74 ans, le président Zeman, qui risque d'être réélu à la fin de ce mois. Et ce président Zeman, il est très intéressant. C'est un ancien du Parti communiste, qui a toujours des amitiés avec tous les vieux staliniens de la planète, mais qui, en même temps, s'est converti à l'économie de marché, et dont un certain nombre d'amis se sont enrichis de manière assez rapide. Et dans ce monsieur qui est dans un très sale état physique, ce qui ne l'empêche pas de se représenter. Pour beaucoup d'observateurs, ce très sale état physique, c'est ce qu'on appelle le syndrome eltsinien. Je suppose que les moins de 20 ans se rappellent, les plus de 20 ans se rappellent de Eltsine qui était composé de 50% d'eau et 50% de vodka. Eh bien, Zeman, c'est un peu le même problème. Il a des problèmes d'équilibre, il titube dans toutes les apparitions qu'il fait, mais officiellement, c'est un problème de pression sanguine. Oui, effectivement, quand on picole, on a de la pression. Alors, on ne dit pas alcoolisme pathologique, on dit pression sanguine en tchéco.
C'est pas bien de dire du mal des gens.
Non, c'est pas bien. Alors ce brave Zeman, justement, n'a aucun programme. Parce qu'il pourrait être alcoolique et avoir un programme. Mais non, il n'a aucun programme en dehors de se faire réélire. La deuxième partie de son programme, c'est de protéger les Tchèques. Les Tchèques sont en effet extrêmement menacés. C'est un pays qui intéresse mondialement tout le monde. Ils sont menacés par des hordes d'envahisseurs étrangers, c'est-à-dire des réfugiés. Et alors, il faut bien les protéger parce que, en plus, ces réfugiés ont le mauvais goût, c'est très très mal vu en Europe centrale, d'être basanés et en plus musulmans. Donc, faut pas déconner. Donc, ça, c'est un sacré programme. Alors, derrière Zeman, il y a un autre personnage intéressant qui s'appelle Babiš. Babiš, ça s'écrit Babiš en français et ça se dit Babiš en tchèque. Et ce Babiš est un multimilliardaire. Ça fait un peu penser. On l'a appelé le Trump d'Europe centrale quand il est devenu premier ministre. Il a comme programme d'enrichir les riches, de les rendre encore plus riches. On ne sait pas trop comment il est devenu milliardaire, mais ce qui est intéressant aussi, c'est son passé. C'est un ancien de l'équivalent en tchèque du KGB. Donc ce monsieur a fait partie des services secrets communistes avant de devenir milliardaire ultra-libéral. C'est amusant et ça fait penser à des choses. Ça rappelle le président des riches, ça rappelle peut-être certains dirigeants de l'Ouest. Et ce Babiš, il a tout intérêt à ce que Zeman soit réélu parce qu'il a besoin d'une bonne immunité, parce que justement on ne sait pas trop comment il a fait sa fortune. Et ça rappelle aussi d'anciens présidents de l'Ouest. Ceux qui pensent à des présidents de petite taille français sont l'esprit mal tourné. Bien sûr, cela est anecdotique. À côté de la Tchéquie, qui est un tout petit pays, il y a l'énorme ours russe qui va également faire peau neuve. Peau neuve, si on veut dire, puisque la peau neuve risque fort d'être la vieille peau du Kremlin, à savoir Vladimir Poutine, qui est quand même au pouvoir depuis 1999 sans discontinuer, et qui se représente bien évidemment. Et Vladimir Poutine, donc, est quand même quelqu'un d'intéressant, puisque lui aussi est un ancien du KGB, avec un curriculum vitae assez sympathique. Et cet ancien du KGB, lui aussi, s'est converti à l'économie de marché, a une fortune colossale, a fait la fortune d'un certain nombre de membres de sa famille, de tous ses proches. Et lui aussi, certes, il est ivre de pouvoir, il est gonflé de sa supériorité, il se sent investi d'une mission quasi messianique sur la grandeur de la Russie, mais il a aussi, lui, besoin d'une immunité pour les années à venir. Donc s'il peut rester au pouvoir jusqu'à sa mort, ça rappellera peut-être un certain Jacques C.
Et bien finalement, on n'a pas l'impression que tous les pays se ressemblent, non ? Je sais pas.
Bah oui.
On remplace la vodka par un alcool plus local, quoi. Alors justement, les époques aussi se ressemblent, parce que finalement, la seule chose qu'on a envie de dire quand on est au pouvoir, c'est « salaud de pauvre ».
Bah oui, les pauvres, c'est bien en démocratie, parce que les pauvres, ça vote, on les fait voter un peu comme on veut. Ça s'appelle le paternalisme, ça s'appelle donc la propagande, on arrive à faire voter les pauvres. Mais en même temps, ils sont quand même dégoûtants, ces pauvres. Et heureusement, nous avons la chance d'avoir un président jeune et moderne, qui n'est ni de gauche ni de droite, mais qui a des inspirations historiques, parce que c'est un grand penseur, et il ressort des placards les idées vieilles et moisies, et il en fait des idées neuves et moisies. C'est toute la doxa macronienne, prendre des vieilles idées, on les ripolline, et ça devient des nouvelles idées, mais aussi moisies que les anciennes. Alors après la réforme du code du travail, sur mesure pour les grandes entreprises, la Macronie est en train d'ouvrir la chasse. L'ouvrir la chasse. La chasse est rouverte pour un gibier apprécié par ces messieurs-dames, qui ne sont ni de gauche ni de droite, mais qui sont quand même ultra-libéraux et qui raffolent de ce gibier. Ce gibier, c'est le pauvre. Le pauvre se chasse dans les milieux ultra-libéraux. Parce que le pauvre est un salaud, un nuisible, un peu comme les renards dans nos campagnes. Ce salaud de pauvre se vautre dans la luxure des APL, rendez-vous compte. Ce salaud de pauvre voudrait avoir un CDI. C'est quand même invraisemblable. Ce salaud de pauvre qui voudrait, on peut dire là que c'est un double salaud, avoir un salaire qui lui permettrait de vivre. Incroyable là aussi. Cet immonde pauvre qui ne veut pas comprendre qu'en donnant toujours plus aux riches, c'est bon pour l'économie. Les pauvres sont idiots et on va le revoir. Et en plus, cette ordure de pauvre voudrait être soignée comme un riche et voudrait se la couler douce quand il est chômeur. Et c'est bien là le problème de l'actualité. C'est qu'un chômeur, il faudrait quand même qu'il soit un peu humble, qu'il se sente coupable. Alors, il est bien temps que notre moderne président mette bon ordre à tout cela, avec sa ministre du Travail, qui a déjà brillé dans la réforme du travail, une ministre qui est très méritante. Méritante, bien évidemment. Elle est millionnaire. C'est qu'elle a du mérite. Il faut bien comprendre que pour ces gens-là, quand on est millionnaire, c'est qu'on le mérite. Quand on est pauvre, aussi. Avec des théories culpabilisantes, ultra-modernes, qui sentent... Allez, on va pas remonter trop loin. Le thatchérisme. Le Thatcher, c'est les années 80, quand même. Ça remonte à bientôt 40 ans. C'est très moderne. Alors, mesdames, messieurs, il faut bien le dire, les pauvres méritent leur sort. Car s'ils n'aimaient pas cela, ils feraient tout pour être riches. Et alors, ils seraient riches. S'ils sont pauvres, c'est donc qu'ils l'ont bien voulu. Les chômeurs, c'est pareil. Le chômeur, par définition, est géniard. Il jeûne. Il ne veut pas faire 200 km le matin et 200 km le soir pour gagner un SMIG. Quel scandale ! Non, vraiment, heureusement qu'il y a les députés, La République En Marche, pour dire vrai, les vrais problèmes des Français. Comment finir ses fins de mois lorsqu'on en gagne seulement 6000 euros à l'Assemblée nationale ? Comment survivre quand on n'a pas le droit de s'acheter un Porsche Cayenne ? Ça, ce sont des vrais problèmes, ce sont des vraies problématiques, contrairement à ces géniards de chômeurs. Non, vraiment, ce n'est pas la peine de faire quelque chose pour ces gueux. Ils sont trop ingrats, et n'ayons pas peur de le dire, ils sont trop cons. Alors, je ne m'étendrai pas davantage, vous avez compris la problématique, tellement le propos est entendu et la conclusion certaine. Bref, pour finir, je citerai une pensée de LRM, La Royauté en Marche, qui résume bien la situation. S'ils n'ont pas de pain, qu'ils mangent de la brioche, c'est con.
Tu peux la faire sur tous les gouvernements, ta chronique, quand même. Hein. Avoue-le.
Ah, mais celui-là est particulièrement doué.
Ouais, ils sont forts. Il faut bien le reconnaître qu'ils sont forts. Alors un autre très fort aussi internationalement, c'est la pomme, là, Apple.
Alors je vais vous parler de la dérobade. Je suppose que là aussi, les moins de 20 ans ne seront pas forcément au courant, mais les plus de 20 ans, oui. La dérobade, c'est ce fameux film avec Miu Miu qui raconte la descente aux enfers d'une jeune fille naïve et qui devient prostituée et qui tombe sous la coupe d'un Mac qui est à la fois charmeur et violent. C'est pour ça que j'ai choisi ce titre. Le Mac est donc un petit despote qui, sans pitié, sans limite, exploite des innocents, qui leur prend leur argent, toujours et encore. Mais un bon Mac, entre guillemets, c'est aussi un charmeur qui fait en sorte que ses esclaves pensent faire ce qu'il faut, qu'ils doivent aimer leur Mac, quoi qu'il arrive, et continuer à engraisser leur bourreau. En général, le Mac ne paie pas d'impôts, cache ses revenus au fisc et s'enrichit donc rapidement. Vous avez bien entendu compris que je parlais de Macintosh, l'entreprise qui vous prend pour des pommes en vous vendant des produits deux fois plus chers que les autres, qui ne se répare pas, championne de l'obsolescence programmée en concurrence avec Samsung et du marketing, championne de l'optimisation fiscale. C'est quoi l'optimisation fiscale? Vous savez, c'est ce truc qu'on utilise maintenant pour dire fraude fiscale. Un peu comme plan social pour dire lourder des prolos comme des merdes. Bref, Apple a inventé un système dans lequel les consommateurs se font racketter, sont fiers de l'être, en redemandent, sont fidèles parmi les fidèles et encensent leur défunt gourou Steve Jobs comme le messie. Pour finir, je ne vois que Beethoven. Pom 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 pom.
Eh bien, une chronique bien efficace et qui a introduit notre invité de tout à l'heure qui nous parlera à nouveau d'Apple avec un petit peu plus de chiffres et de fonds peut-être, monsieur Jean-Marc. Moins de posture, voyons. Alors, on va justement parler aussi, entre autres, de combats politiques et peut-être de politique un peu sans armes, sans haine et sans violence avec HK et les saltimbanques.
Sans haine, sans armes et sans violence. De résistance en désobéissance. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens, depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens, depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. Sans haine, sans armes.
106.3, fréquence par pluriel, l'émission Mode d'emploi, émission des chômeurs et des précaires, avec ce soir des journalistes du PIAF et des membres de ATTAC.
Et nous recevons ce soir Raphaël Prado, qui doit être au téléphone. Bonjour Raphaël.
Bonsoir.
Bonsoir. Donc tu es professeur d'économie, et tu es aussi porte-parole de l'association ATTAC, qui est bien présente dans cette émission. Donc on peut rappeler qu'elle est là, entre autres, pour défendre différentes idées au niveau économique pour permettre à la population d'apprendre un peu cette économie et surtout savoir sur quoi taper. Et justement, un des thèmes sur lesquels on a envie d'insister en ce moment et dont on parle beaucoup dans les journaux, c'est l'évasion fiscale. Alors, l'évasion fiscale, c'est à la fois, on en parle, celle des individus qui ne payent pas leurs impôts, mais c'est aussi celle des banques et des grands groupes industriels. Alors, est-ce que tu peux nous évoquer un peu ce sujet de l'évasion des banques et des grands groupes industriels?
Ben, c'est vrai que quand on parle d'évasion fiscale, il y a plusieurs choses. Hein. On peut penser à la fraude fiscale toute simple d'un particulier ou d'un commerçant qui va pas déclarer une partie de ses revenus. Hein. Mais ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est plutôt l'évasion fiscale des très riches et des multinationales, parce que c'est pas tout à fait les mêmes sommes qui sont en jeu. C'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte que ceux qui devraient le plus contribuer à l'impôt, ceux qui ont le plus les moyens, eh bien, ont plein de techniques pour y échapper. Et c'est vrai que ces derniers temps, on a eu de multitudes de scandales qui révèlent les uns après les autres à quel point l'évasion fiscale est vraiment au cœur du système. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une multinationale comme Apple, par exemple, on en reparlera tout à l'heure, ne paye. On a publié un rapport qui montre qu'elle ne paye que quelques pourcents d'impôts, 4% d'impôts sur ses activités en dehors des États-Unis, parce qu'en réalité, tout est déclaré artificiellement dans des paradis fiscaux. Alors c'est vrai que vous ou moi, avec nos revenus, on ne va pas s'amuser à payer un avocat fiscaliste pour nous conseiller de créer telle ou telle société écran permettant de déclarer nos revenus dans un paradis fiscal, ça ne vaudrait absolument pas le coup. Mais pour des entreprises qui génèrent des milliards de revenus, pour les plus grandes multinationales, aujourd'hui, on se rend compte que c'est devenu la règle. Et les Paradise Papers, notamment, l'ont parfaitement montré, parce que c'est vrai qu'on a eu une multitude de scandales ces derniers temps, les LuxLeaks, les SwixLeaks, les Panama Papers, mais ça laissait plutôt penser que c'était, enfin, ce qui apparaissait au grand jour, c'était l'idée de fraude fiscale, c'était l'idée de personnes qui fraudaient, qui est un peu comme avec l'affaire Cahuzac, de personnes qui ne respectaient pas la loi. Alors qu'avec les Paradise Papers, on voit vraiment des montages qui sont la plupart du temps légaux, ou quasiment légaux, en tout cas, qui ne donnent lieu à aucune poursuite, parce que les multinationales se jouent des différentes réglementations entre pays. Et si on prend l'exemple d'Apple, par exemple, quand vous achetez un iPhone en France, ou en Italie, en Allemagne, enfin, peu importe, les revenus sont déclarés, sont perçus par une filiale irlandaise, et après, maintenant, repartent à Jersey, et à la fin, c'est taxé à 0% ou à très très peu. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un problème majeur. Si on parle autant d'évasion fiscale, c'est parce que on nous rabâche à longueur de journée dans les journaux, enfin dans les radios, pas forcément la vôtre, j'imagine, mais qu'il n'y a plus d'argent, que l'État vit au-dessus de ses moyens, qu'il y a trop de fonctionnaires, qu'on paye trop, on paye trop les fonctionnaires, que les services publics, il faudrait les privatiser, etc., parce qu'on vivrait au-dessus de nos moyens. Et en réalité, quand on regarde un petit peu ce que donnent les chiffres, on se rend compte que les chiffres officiels, hein, on n'invente pas des chiffres, on prétend pas, nous, inventer des chiffres, hein, mais quand on regarde les chiffres officiels, la fraude et l'évasion fiscale en France, ça représente un manque à gagner pour l'État de 60 à 80 milliards d'euros, et ça, c'est les estimations les plus consensuelles possibles. Quand on sait que le déficit public est dans cette fourchette, hein, d'une année sur l'autre, on est autour de 70 milliards, 75 milliards, on se rend compte qu'en réalité, s'il n'y avait pas d'évasion fiscale, il n'y aurait pas de déficit public qui sert à justifier toutes les politiques d'austérité et qui sert à justifier en permanence que la population fasse des efforts. Et c'est vrai que là, Attac vient de publier un livre hier, enfin, on a fait une soirée débat hier, mais il va être publié officiellement, il va sortir le 17 janvier, qui s'appelle « Toujours plus pour les riches », où on montre que le système fiscal est totalement, de plus en plus, anti-redistributif à cause de l'évasion fiscale, mais aussi à cause d'un certain nombre de niches fiscales qui permettent en fait aux très riches, censés être taxés davantage, avec le principe de progressivité de l'impôt qui a quand même historiquement permis de réduire les inégalités et de casser le système de rente qui permettait d'hériter de richesse et puis de fortune et puis de génération en génération d'être toujours plus riche. Enfin bon, je ne vais pas refaire ici l'histoire de la lutte des classes et des capitalistes et des prolétaires qui, eux, n'avaient rien et ne pouvaient pas s'enrichir. L'impôt a contribué à redistribuer les richesses et à permettre un système de protection sociale, à permettre un système de réduction des inégalités. Or, depuis le tournant néolibéral des années 80 et puis qui s'est amplifié et renforcé dans les années 90 et depuis, on constate que toujours, on affaiblit l'impôt progressif, pardon, on affaiblit l'impôt sur le revenu, on affaiblit les différents impôts qui permettent de taxer les plus riches. On peut penser en France, par exemple, à l'ISF, qui vient d'être supprimé et remplacé par une taxe qui ne taxera plus tout la même chose. On peut penser à la fameuse flat tax qui permet aujourd'hui de taxer une taxe unique sur les capitaux à un taux bien plus faible que ce qu'il était auparavant. Et ça, on le voit dans différents pays, c'est une politique d'austérité pour les pauvres et par contre de qui permet toujours plus d'enrichissement pour les riches. Et l'évasion fiscale là-dedans rentre tout à fait là-dedans parce qu'en réalité, le système est plein de failles qui permet aux plus riches et aux multinationales d'échapper à l'impôt. Et à chaque nouveau scandale, les élites font semblant de découvrir qu'il y a un problème. Et c'est vrai que là, c'était particulièrement caricatural parce que si on prend l'exemple du gouvernement français, hein, silence de Macron, qui parle plein de choses, mais qui n'a pas parlé de ce scandale. Mais par contre, Bruno Le Maire, qui fait semblant de se féliciter d'une liste noire des paradis fiscaux au niveau de l'Union européenne, qui juge crédible et qui considère que ça va être une avancée majeure pour lutter contre les paradis fiscaux, alors que nous, l'analyse qu'on en fait, c'est que c'est une véritable mascarade. C'est l'Union européenne et les États, y compris la France, font semblant de lutter contre l'évasion fiscale, ne prennent jamais de mesures pour lutter contre l'évasion fiscale. Et donc, j'imagine qu'on en parlera après, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on considère qu'il faut absolument l'action citoyenne, que les citoyens passent à l'action pour mettre la pression sur les gouvernements et sur les multinationales pour que tout cela cesse. Mais bon, je vais arrêter, peut-être pas faire un, un monologue non plus.
Non, alors, mais c'est très intéressant. Tu as bien résumé, j'imagine, tout ce qui permet de décrire proprement ce système d'évasion fiscale, mais on peut peut-être prendre l'exemple spécifique d'Apple, avec qui est quand même une entreprise bien connue, vu que beaucoup achètent des produits depuis très longtemps de cette multinationale. Certains disent fièrement, tiens, une partie de ces produits profite certainement à l'économie française. Or, si on prend cet exemple très concret et son mécanisme, si tu l'as en tête, comment est-ce que Apple arrive à, finalement, de manière, comme tu le disais, légale, à détourner l'ensemble de ce qu'elle devrait payer en taxes et en impôts en France?
Alors, tu me lances sur Apple parce que c'est vrai que c'est une multinationale qui attaque à particulièrement ciblé ces derniers temps. On mène des actions contre les multinationales et les banques depuis plusieurs années et on a choisi depuis la rentrée, là, et particulièrement depuis le mois de novembre, de cibler particulièrement Apple parce que c'était la sortie de l'iPhone 10 qui était censée être un moment très important pour la marque. Et c'est une marque dont le succès repose vraiment sur l'image de marque très sympa dont elle bénéficie, quoi. On a voulu montrer l'envers du décor et on a donc mené une campagne qui s'appelle Apple paye tes impôts pour mettre un peu la question de l'évasion fiscale sur le tapis. On aura peut-être l'occasion d'en parler. Il y a aussi ça s'inscrit dans une campagne plus large avec d'autres organisations qui s'appellent iPhone Revolt et différentes organisations ont attaqué Apple, on va dire, avec différents points d'attaque sur l'obsolescence programmée. Ça a d'ailleurs donné une plainte. De l'association Halte à l'obsolescence programmée sur la publicité avec les antipubs qui ont fait des campagnes d'affiches. Je pense que vous avez pu en bénéficier dans le métro à Paris notamment, qui était bien sympathique. Enfin, plein de différentes initiatives pour cibler Apple parce qu'Apple, c'est la plus grande multinationale du monde par sa capitalisation boursière aujourd'hui. Mais c'est aussi, c'est ce qui est intéressant, une entreprise qui est certainement la championne du monde de l'évasion fiscale. Dans le sens, alors, qu'on soit clair, elle n'est pas forcément pire que d'autres ou meilleure que d'autres. Et comme je disais tout à l'heure, ça devient quelque chose qui est vraiment systémique. Toutes les multinationales utilisent différents stratagèmes. Et c'est vrai qu'Apple, elle est symptomatique de ça. Et vu que c'est celle qui génère le plus de revenus, forcément, c'est celle qui génère des sommes d'évasion fiscale qui sont absolument colossales. Hein. Pour donner un chiffre, on a calculé que Apple devait au pays de l'Union européenne 16 milliards sur la période. Alors là, j'ai un trou sur le chiffre exactement. Je crois que c'est 2003-2014. C'est une période d'une dizaine d'années. Ça correspond en fait à l'amende qu'a calculée la Commission européenne. Vous savez, la fameuse amende de 13 milliards d'euros à laquelle Apple a été condamnée. Enfin, si on rentre dans les détails, c'est plutôt l'Irlande qui a été sommée de récupérer cette somme auprès d'Apple. Mais donc, c'est bien une somme qu'Apple doit de manière indue aux contribuables européens. Et nous, on a recalculé cette somme, on arrive à 16 milliards d'euros, parce qu'en fait, on considère que c'est pas logique que Apple soit imposé au taux irlandais. Alors, c'est un peu confus et un peu... parce que c'est compliqué. Alors, je reviens à la base. Apple, quand elle fait une activité en France ou dans les différents pays, elle a des magasins où elle vend dans d'autres magasins. Hein. Il n'y a pas que des Apple Store, il y a aussi tout plein de magasins, notamment de téléphonie, qui vendent des produits. Mais ce sont des biens donc qui sont la richesse a été créée dans différents pays, hein. Ça a été conçu aux États-Unis, ça a été fabriqué à différents endroits, mais il y a bien un revenu qui est généré en France, et c'est pareil pour les autres pays européens. Le problème, c'est que ce revenu-là ne va pas apparaître, le chiffre d'affaires d'Apple en France est absolument ridicule. Pourquoi ? Parce que tout part dans des filiales irlandaises, et donc en fait la filiale française est une espèce de vitrine, déclare des revenus qui sont tout à fait insignifiants par rapport à la réalité de l'activité d'Apple en France. Et donc, pendant des années, Apple était installé en Irlande et ça lui permettait de bénéficier d'un pays particulièrement accueillant. Parce qu'en France, le taux d'imposition sur les sociétés est de 33%. Alors, on pourra y revenir éventuellement. En réalité, les multinationales, les grandes entreprises françaises, les entreprises du CAC 40, ne paye pas du tout cette somme-là parce qu'il y a plein de dispositifs pour trouer le dispositif, c'est-à-dire entre le crédit impôt compétitivité emploi et d'autres types de dispositifs comme ça, les grandes entreprises échappent en partie à l'impôt par des moyens, encore une fois, totalement légaux. Mais pour revenir sur Apple, Elle s'était donc installée en Irlande parce qu'au lieu de payer 33% sur l'impôt sur la société, l'impôt sur les sociétés en Irlande n'est que de 12,5%, qui est le taux le plus bas en Europe. Sauf que l'Irlande, pour accueillir les multinationales, a vraiment une stratégie très agressive de dumping fiscal. Non seulement elle propose des taux d'imposition plus bas, mais en plus, elle propose de passer des accords, elle proposait, du moins, en tout cas, si on prend l'exemple d'Apple, ça remonte à des années, hein, elle proposait à Apple un accord, ce qu'on appelle des rulings, enfin, je suis très mauvais en anglais, vous m'excusez l'accent, elle propose donc différents accords pour baisser le taux. Et ce que la Commission européenne a montré, c'est que, encore une fois, on utilise des chiffres, hein, qui sont des chiffres totalement officiels, hein, c'est que Apple, pendant 10 années, a payé seulement 0,005% d'imposition en Irlande. Alors ça s'est ébruité et la Commission européenne, comme je l'ai dit, a demandé à l'Irlande de récupérer ces sommes qui sont indues parce qu'elle considère que c'est une distorsion de concurrence par rapport aux autres entreprises qui exercent en Irlande. Elle n'est pas du tout condamnée pour évasion fiscale. Hein. Malheureusement, on n'en est pas là, quoi. Mais en tout cas, cette somme, officiellement, elle est due aux citoyens européens. Et c'est pour ça qu'on a une de nos revendications, c'est évidemment pas la seule, mais une de nos revendications, c'est qu'Apple paye au plus vite cette amende et qu'elle rembourse, donc, plutôt que de faire traîner, parce que là, en fait, il y a des différents recours qui permettent de ne pas payer, même si on a eu des avancées ces derniers temps, où l'Irlande a annoncé qu'Apple allait enfin ouvrir un compte bloqué pour déposer cette somme. Mais bon, je ne rentre pas trop dans les détails, mais il y a toujours un recours qui est en cours. Et donc, pour l'instant, cette histoire n'est pas réglée.
On voit le schéma. Et donc, l'une des démarches de la campagne dont on va détailler après le potentiel pour arriver à faire réagir à la fois peut-être les États, mais surtout les citoyens. Mais pour pouvoir agir, il faut parfois désobéir à la loi et aller... parfois livrer des textes qui ne devraient pas être livrés au sens du droit de l'entreprise, par exemple, ou aller, pourquoi pas, faire des actions un peu plus désobéissantes. Alors, justement, on va écouter « Désobéissance civile » de Kenny Arcana.
Trop nombreux sont ceux qui ont oublié le passé. L'histoire de l'homme, une honte, faut-il te le ressasser?
On descend tous, il y a un problème quelque part, on descend tous.
Là, c'est de la désobéissance civile, c'est pas de la violence.
On a une place énorme, une responsabilité énorme dans ce qui s'est joué et ce qui se joue et ce qui va se jouer dans l'avenir.
Alors on reprend l'interview donc de Raphaël Prado, porte-parole d'Attaque, qui nous a parlé dans une première partie d'évasion fiscale et des mécanismes, entre autres, qui ont permis à l'entreprise multinationale Apple de payer en Europe une taxe minimale, grâce entre autres à l'action du gouvernement irlandais. Et toute la démarche d'une association comme Attaque et des différentes actions militantes qui ont été menées est de permettre aux citoyens de se rendre compte de ça. Mais aussi, il n'y a pas que l'association Attaque, il y a eu, c'était dans les journaux hier, la deuxième partie du procès LuxLeaks, qui était donc le procès de deux lanceurs d'alerte qui ont désobéi, comme on vient de l'entendre dans la chanson précédente, en révélant à l'ensemble de la presse internationale des documents qui permettaient de montrer les mécanismes, entre autres permettant l'évasion fiscale, au niveau du Luxembourg. Alors ça s'est bien fini hier, si j'ai bien compris le procès.
Alors, je vais te répondre là-dessus, mais d'abord, je voulais juste revenir sur tout à l'heure parce que j'ai pas pu finir. Et pour être complet, l'histoire avec Apple et l'Irlande, ça s'est fini que, à force d'être trop visible de cette évasion fiscale en Irlande, les Paradise Papers viennent de révéler que maintenant Apple avait trouvé un nouveau système maintenant déclarer à partir de l'Irlande les impôts partent à Jersey où là le taux d'imposition est carrément de zéro. Et c'est vrai que ça montre, pour finir le raisonnement de tout à l'heure, que à chaque fois que les États font semblant de lutter un peu contre l'évasion fiscale et qu'il y a une faille qui est bouchée, il y a tout de suite les multinationales en trouvent une autre ou 10 autres pour continuer à faire comme si de rien n'était. Et face à ça, c'est vrai que on est obligé de constater que si les choses bougent, c'est grâce au travail de 3 types d'acteurs. Les lanceurs d'alerte, on va en parler, je vais répondre à ta question. Les journalistes aussi, en tout cas certains journalistes, notamment ceux du consortium qui sortent toutes ces affaires-là au fur et à mesure, ou puis on peut penser par exemple en France à l'équipe de Cache Investigation qui est justement impliquée dans le scandale des Netflix. Et puis, troisièmement, les militants, et on va en parler aussi tout à l'heure. Et c'est vrai que sans ce travail-là des journalistes, des militants et des lanceurs d'alerte, on ne saurait pas tout ce qu'on sait aujourd'hui sur l'évasion fiscale et ça ne serait pas un scandale qui ferait autant parler. Et c'est vrai que nous, c'est un point de départ, c'est que l'évasion fiscale devrait être, selon nous, un des thèmes centraux, par exemple, d'une campagne électorale. Plutôt que de parler de faux problèmes en permanence, plutôt que d'aller se demander, par exemple, comment on va mieux contrôler les chômeurs, je rappelle que la fraude supposée des chômeurs, selon les chiffres officiels de Pôle emploi, c'est 1000 fois moins que les sommes dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que les chiffres annoncés par officiellement pour les fraudes à Pôle emploi, c'est 60 millions d'euros. L'évasion fiscale, au bas mot, c'est 60 milliards d'euros. Donc on devrait, plutôt que de parler de comment contrôler les chômeurs, on devrait plutôt se poser la question de comment lutter contre l'évasion fiscale. Et donc j'en arrive à ta question, c'est vrai que des scandales sortent régulièrement grâce au travail des lanceurs d'alerte. Les LuxLeaks, c'est donc deux citoyens, Antoine Deltour et Raphaël Allais, alors ils font pas ça de manière concertée ni tout à fait au même moment, mais deux citoyens qui vont attirer l'attention, qui vont sortir des informations de manière évidemment illégale au nom du le droit luxembourgeois. On en verra tout à l'heure, c'est toujours la question de la propriété, de qu'est-ce qu'on vole. Et donc ils ont sorti des affaires, ils les ont transmis à des journalistes, à un journaliste, Édouard Perrin, qui bosse pour Cache Investigation, l'émission de France 2. Et donc le LuxLeaks s'éclate il y a quelques années et montre comment l'État luxembourgeois, alors je fais une petite parenthèse, dirigé à l'époque par un certain Jean-Claude Juncker, qui aujourd'hui est à la tête de la Commission européenne et censé lutter contre l'évasion fiscale. Donc le même Jean-Claude Juncker, quand il était Premier ministre du Luxembourg, non seulement prônait l'évasion fiscale, mais le matérialisait concrètement, c'est-à-dire une stratégie comme je parlais tout à l'heure avec l'Irlande, enfin entre l'Irlande et Apple, d'accords fiscaux qui permettaient aux entreprises de payer beaucoup moins que le taux officiel. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est caractéristique des paradis fiscaux. Et ce sont souvent, enfin en tout cas dans un pays comme le Luxembourg ou si on prend Jersey par exemple, ce sont des micro-États qui considèrent que s'ils appliquent une taxe très très faible sur l'imposition des sociétés, ça va permettre à des multinationales de venir. Alors les multinationales, elles, vont pouvoir échapper à l'impôt comme ça. Mais le peu de taxes que ça va...
Donc ça, ce sont les mécanismes donc, que tu as décrits pour l'Irlande, qu'on retrouve encore à nouveau au Luxembourg, voilà. Et dans beaucoup de paradis fiscaux. Donc là, typiquement pour les LuxLeaks, le problème, c'est que deux lanceurs d'alerte qui étaient employés dans des systèmes bancaires ont révélé les informations. Il y avait un procès qui donc a déjà eu lieu il y a un an, et c'était hier... La cour d'appel européenne pour leur condamnation. Et justement, l'un d'entre eux a été relaxé.
Alors, c'était la cour de cassation luxembourgeoise. Donc, ils avaient été condamnés en première instance, puis condamnés en appel, et c'était pourvu en cassation, mais c'est bien le droit luxembourgeois. Et là, la question portait sur est-ce qu'on leur reconnaît ou pas le fait qu'en étant lanceur d'alerte, ils devraient être dispensés de peine. En gros, est-ce que quand on est en cassation... que ça a permis pour Antoine Deltour, c'est de casser le jugement et de revenir, du coup, ça, il va être rejugé en appel. Malheureusement, Raphaël Allais, lui, ils ont dissocié les cas, et Raphaël Allais, lui, sa peine est confirmée. Et du coup, lui, effectivement, va aller à la dernière étape possible, c'est-à-dire à la CEDH pour plaider ça au niveau européen et au niveau d'une question en termes de droits de l'homme. Mais c'est vrai que la question fondamentale qui est derrière, c'est comment est-ce qu'on reconnaît, comment est-ce qu'on protège les lanceurs d'alerte. Ce sont des citoyens, on le voit sur Deltour et Allais, qui, à un moment donné dans leur vie, considèrent que c'est pas possible, au niveau de leur conscience, de faire ce travail sans alerter l'opinion publique via les médias, par exemple, d'une pratique qu'ils voient sous leurs yeux et qui est totalement répréhensible. Et là, ce sont des citoyens, donc, qui ont des citoyens français qui travaillaient au Luxembourg pour le cabinet qui s'appelle PwC, et qui ont sorti les informations. Et c'est vrai qu'au regard de la société, on devrait les remercier, on devrait les protéger, et c'est tout l'inverse qui se passe, c'est-à-dire que ce sont les citoyens qui sont poursuivis depuis 3 ans, ils sont dans les procédures judiciaires en permanence, et c'est vrai que c'est quand même, c'est pas facile à vivre, quoi. Ils ont perdu leur boulot, évidemment, voilà. Alors, l'ironie de l'histoire, Quelques jours avant, il y a eu un autre procès, puisque en fait, Raphaël Allais a réussi à faire en sorte qu'il y ait un procès de PwC en France. C'est toujours intéressant de renverser l'accusation, et là en plus au niveau des tribunaux, puisque PwC a du coup révélé, a mené une enquête avec une espèce de détective privé, hein, et a révélé du coup les sources du journaliste, qui évidemment en France est interdit, quoi. Donc bref, c'est une affaire, c'est un feuilleton juridique. Ça montre quelque chose qu'on va retrouver tout à l'heure quand on va parler des pocheurs de chaises, si on en parle. C'est à chaque fois des multinationales qui ont... Alors la PwC, c'est pas une très grande, très connue, mais ça fait partie de ces entreprises dont le boulot est de faciliter l'évasion fiscale, d'organiser l'évasion fiscale des très riches et des multinationales. Et c'est vrai que ce sont des entreprises qui ont des moyens colossaux par rapport à un Raphaël Allais ou par rapport à un Antoine Deltour, et qui, quand le scandale a été révélé, quand... le fameux numéro, donc, je ne sais plus si c'était envoyé spécial au cache investigation, enfin bon, ces émissions-là où travaille Édouard Perrin, plutôt que de, comment dire, la justice, plutôt que de cibler ceux qui fraudent, enfin, ceux qui nous amputent de milliards d'impôts, eh bien, elle a ciblé Raphaël Allais et Édouard Perrin, quoi. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est malheureusement. Assez régulier, c'est qu'on constate que les trois acteurs dont je parlais tout à l'heure, les journalistes, les lanceurs d'alerte et les militants, ce sont eux qui se retrouvent devant les tribunaux. Les multinationales et les très riches, leur nom sort dans les journaux. Je sais pas, moi, Bernard Arnault, par exemple, dernier Paradise Paper, son nom est sorti dans les journaux. On sait que il contourne, il a différents moyens pour contourner l'impôt. Mais lui n'est pas inquiété par la justice, en toute impunité. Par contre... les militants, les lanceurs d'alerte et parfois les journalistes comme Édouard Perrin se retrouvent, eux, à devoir rendre des comptes.
Donc c'est une véritable criminalisation du militantisme et surtout des lanceurs d'alerte. Comme tu le disais, il y a une volonté militante, ou en tout cas citoyenne, de créer, pourquoi pas, un statut du lanceur d'alerte qui permettrait de le protéger juridiquement. Mais ça va même bien au-delà des lanceurs d'alerte, vu qu'on a pu constater dans différentes actions militante relativement gentille ces dernières années, entre autres celui donc des faucheurs de chaises et de l'action dernièrement contre Apple, fait par les militants dans l'automne dernier. Il y a donc pour l'un un procès en cours qui aura lieu prochainement pour une faucheuse de chaises, et puis pour Apple, il y a une plainte qui a eu lieu il y a la semaine dernière. Alors on peut peut-être parler très rapidement du cadre de ces faucheurs d'alerte et de rappeler ce qui c'est de la plainte d'Apple vis-à-vis d'attaque.
Alors ouais, c'est deux procédures qui arrivent en même temps. Hein. Attaque à 20 ans en 2018, on n'a jamais eu de procès, mais là on va en avoir deux en deux semaines, le 6 février à Carpentras et le 12 février à Paris. Et on appelle vraiment tout le monde à se mobiliser, à venir nous soutenir à ce moment-là. Vous êtes plutôt à Paris, le 12 février c'est à 13h30 au TGI de Paris. Là c'est Apple qui nous assigne en référé pour nous demander d'arrêter nos actions. Demander à la justice de nous empêcher de pénétrer dans les Apple Store sous peine d'une astreinte de 150 000 euros par action. Évidemment, 150 000 euros, c'est bien plus que le budget de nos campagnes qui sont modestes au niveau des budgets, même si elles ont un impact certain dans l'opinion et par le bruit que ça crée. Hein. Mais et on a juste avant donc le 6 février à Carpentras une militante qui s'appelle Nicole Briand et qui va passer en procès, elle, pour vol en réunion et pour refus de prélèvement ADN. Alors tu as mis la chanson de Air Canada désobéissance civile. C'est vrai que dans les deux cas, ce sont des actions qui peuvent être considérées comme illégales, mais que nous considérons comme totalement légitimes face à la situation que je décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire les scandales se multiplient, mais par contre les États ne font rien. Et c'est vrai que là, bon, on peut poser la question qui vole qui dans l'histoire des fauchages de chaises. Hein. C'est déjà le troisième procès sur ces actions-là. D'autres copains, d'autres organisations sont passés en procès l'année dernière. On veut vraiment faire reconnaître le fait que, ben non, quand on va réquisitionner une chaise en disant on vous la rendra quand vous fermerez vos filiales dans les paradis fiscaux, c'est pas du vol en fait. D'ailleurs, on n'en sait rien pour nous. Et puis vous verrez bientôt que ces chaises-là qui ont été réquisitionnées à Carpentras vont bientôt réapparaître et sont restituées, mais évidemment ne sont pas restituées à la BNP, puisqu'elle n'a pas fermé ses filiales dans les paradis fiscaux. Donc bref, dans les deux cas, ce sont ce qu'on pourrait appeler des procédures bâillons, c'est-à-dire, et puis il y en a plein d'autres, hein, d'ailleurs à Carpentras, on va faire venir d'autres associations, des journalistes, etc., qui sont victimes aussi de ces ces procédures Bayon, le concept, il est simple. Vous êtes une multinationale, vous avez des moyens très importants, vous pouvez utiliser la case juridique, payer un avocat et faire une procédure pour embêter, parasiter le travail d'associations. Donc là, typiquement, sur Apple, c'est ça, quoi. On les a rencontrés le 18 décembre, on leur a demandé de bien vouloir payer enfin leurs impôts là où elles réalisent leurs activités. Eux, la seule chose qui les intéressait, c'était de savoir si on allait continuer nos actions. Nous, on leur a dit, bien sûr, tant que vous n'allez pas payer vos impôts, on va continuer nos actions, d'autant qu'elles bénéficient d'un large soutien de l'opinion publique. Nous, on hallucine un petit peu là sur les réseaux sociaux, etc. Le soutien qui apparaît, c'est fort, parce qu'évidemment, vous avez la plus grande multinationale du monde qui ne paye pas ses impôts, et puis qui se permet, du coup, comme réponse à nos revendications, de nous assigner en référé pour nous demander à l'État de nous empêcher de mener des actions. C'est quand même hallucinant de se dire la justice qui manque cruellement de moyens, c'est un service public nécessaire, il y a besoin d'une justice dans un pays démocratique, mais là elle est encombrée par des procédures à l'initiative des multinationales pour nous empêcher de parler, quoi. On peut quand même se demander si la justice n'a rien d'autre à faire et si elle ferait pas mieux justement d'aller importuner ceux qui fraudent le fisc et qui privent les citoyens de sommes qui sont, je le rappelle, nécessaires pour financer les services publics, pour financer la protection sociale. On se plaint en permanence de la dégradation de nos services publics. Il y a des sommes colossales à aller chercher à ce niveau-là.
Oui, et donc il y a d'autres procès, on va conclure là-dessus rapidement, et merci Raphaël pour ton intervention. Il y a entre autres un autre procès de Philippe Poutou et de ses camarades syndicalistes de Ford qui aura lieu le lundi 15 janvier à 8h30 au Palais de Justice de Paris. Venez aussi nombreux pour défendre des poursuites qui avaient été faites lors des manifestations dans le mondial automobile de 2012, hein, où ils avaient simplement envahi le stand avec des confettis et des autocollants. Ou alors un procès qui aura lieu pareil, encore le 15 janvier, mais en fin de matinée, et qui demande un rassemblement devant la Fédération française du bâtiment, le 33 avenue Kléber à Paris, où des différents membres de cette des syndicats de défense des travailleurs du BTP avaient essayé en 2014 de faire comprendre la dangerosité dans certaines entreprises et se retrouvent aujourd'hui avec des procès qui les a conduits à des condamnations lourdes de prison et de paiement de 17 000 euros. Donc voilà, si on rassemblait aujourd'hui la liste de toute la criminalisation du militantisme, on aurait des chiffres qui sont quand même assez impressionnants de procès et malheureusement de personnes qui sont à défendre. Et donc soyez nombreux pour aller les défendre. On enchaîne sur une autre chronique. Et pourquoi pas Gaël qui va nous parler de tout à fait autre chose, de l'UNESCO qui recommande comment gérer la recherche scientifique. Tu as 5 minutes.
Merci. Et le 10 novembre, l'UNESCO a adopté une nouvelle recommandation sur la science et les chercheurs scientifiques qui actualise celle de 1974. Et cette recommandation, elle arrive à point nommé dans un monde qui est dominé à la fois par la technologie et par des obscurantistes. Car elle porte un discours qui tranche avec le discours dominant et surtout avec les pratiques dominantes. Elle commence par rappeler que la science est un bien commun et que l'UNESCO cherche à atteindre, en favorisant la coopération des nations dans le domaine de la science, les objectifs de paix internationale et de prospérité commune de l'humanité. On pouvait croire que la science était une histoire de compétition, que l'objectif était d'être devant son voisin dans le classement de Shanghai. Eh bien non, on peut aussi coopérer. Un point fort de ce texte, c'est la notion de dialogue science-société. Il s'agit d'une part de renforcer la culture scientifique et de permettre, je cite, un débat démocratique vigoureux et éclairé sur la production et l'utilisation du savoir scientifique, et d'autre part de faire en sorte que les choix politiques puissent être éclairés par la science et la recommandation précise en divulguant les conflits d'intérêts. Aujourd'hui, je crois qu'on a encore quelques progrès à faire dans ce dialogue science-société. Et alors qu'on a tendance à privatiser les fruits de la recherche, à travers les brevets notamment, l'UNESCO parle d'un droit humain au partage des avancées scientifiques et des avantages qui en découlent, et appelle à une science ouverte et collaborative, en particulier dans le domaine de la santé, afin de faire respecter le droit humain à la santé, je cite, « Les États membres devraient prendre des mesures visant à ce que les fruits de toute recherche et leurs applications soient partagés avec la société dans son ensemble, ainsi qu'au sein de la communauté internationale, en particulier dans les pays en développement. » Les firmes pharmaceutiques apprécieront cette recommandation. La recommandation ne parle pas seulement de la science, mais aussi des gens qui la font, et en particulier des conditions de travail des chercheurs scientifiques. Pour l'UNESCO, plusieurs conditions sont nécessaires au travail de recherche. D'abord, la liberté de recherche. Je cite, le droit de travailler dans un esprit de liberté intellectuelle à rechercher, expliquer et défendre la vérité scientifique telle que les chercheurs la perçoivent et promouvoir la protection de leur jugement autonome contre toutes les influences indues. Cette liberté des chercheurs, elle est bien mise à mal, notamment pour les scientifiques lanceurs d'alerte. On l'a vu notamment avec l'affaire Seralini, un chercheur qui avait osé montrer la dangerosité des OGM. Deuxième condition de la recherche, c'est la libre communication des résultats. L'UNESCO recommande un accès libre et équitable à la littérature, aux données et aux contenus scientifiques, notamment en supprimant les obstacles à la publication, au partage et à l'archivage des résultats scientifiques. Aujourd'hui, la communication des scientifiques, malheureusement, elle est sous la coupe d'éditeurs internationaux qui font payer à prix d'or à la fois l'accès aux articles et la publication d'un article. Publier un article peut coûter de l'ordre de 1000 à 2000 euros. Troisième condition importante pour le travail des chercheurs, c'est la stabilité des postes de chercheurs, car il est difficile de se lancer dans des travaux de recherche qui sont des travaux de longue haleine quand on doit penser en permanence à trouver un nouveau CDD. L'UNESCO recommande donc que des personnes de valeur soient suffisamment attirées par la profession de chercheur scientifique et suffisamment confiantes quant au domaine de la recherche et du développement pour y voir des perspectives de carrière et une sécurité d'emploi suffisante. Or, la réalité aujourd'hui, c'est que la science est précarisée. Aujourd'hui, en France, par exemple, un tiers des effectifs de l'enseignement supérieur et de la recherche, ce sont des précaires. Enfin, pour avoir des chercheurs, il faut les former. L'UNESCO recommande donc aux États, je cite, « de faire en sorte que tous leurs ressortissants, sans distinction de race, origine sociale, etc., jouissent des mêmes possibilités d'acquérir une éducation et une formation initiale, leur offrant les qualifications nécessaires aux carrières dans la recherche et le développement. » C'est intéressant que cette recommandation arrive au moment même où le gouvernement français restreint l'accès à l'université, tandis que dans d'autres pays, la hausse des frais d'inscription a exclu de l'université une grande partie de la jeunesse. Alors vous allez dire que ce texte, comme tous ceux de l'UNESCO, ce sont beaucoup de vœux pieux, mais il a un intérêt, c'est qu'il fixe une référence et que dès lors qu'un État le signe, les citoyens pourront s'appuyer dessus pour revendiquer. Bref, cette recommandation donne des armes à tous ceux qui se battent pour que la science soit un bien commun.
Merci Gaël pour cette intervention qui sort un peu de l'économie, mais on va peut-être essayer de reparler un tout petit peu, pas tant que ça finalement. Ouais. Alors on a un agenda qui nous permet peut-être de parler un peu de tous ces sujets, vu qu'il y a quand même une belle actualité d'intervention au niveau, dans ces semaines qui viennent, d'intervention, en tout cas pour des livres, et des manifestations vis-à-vis de systèmes économiques. Alors, Gaël va nous parler, par exemple, des assises de la liberté du travail.
Oui, le samedi 13 janvier, à la Bourse du Travail, c'est pour libérer le travail de l'emprise des actionnaires, des objectifs chiffrés et redonner du sens au travail. Donc, c'est de 9h à 16h30.
Alors, le samedi 13 janvier à 14h, Centre social autogéré d'Ivry, 37 rue Marceau, réunion publique, lutte contre le Grand Paris, assemblée des collectifs en lutte contre le Grand Paris, les grands projets inutiles imposés et la démolition de nombreuses choses dans la région.
Et dimanche 14 janvier, donc, et à 14h, il va falloir choisir parce que à Lille-Saint-Denis, le Fares, qui est 6 rue Arnold Géraud, organise un goûter et un moment d'échange avec des personnes réfugiées et migrantes en partenariat avec l'association La Cantibulante.
Alors, toujours le dimanche 14 juillet, mais ici à Paris, au boulevard de l'Hôpital.
Janvier,
bien sûr. Il y a la manifestation Logement Balance ta réquisition. C'est un hashtag si vous voulez participer sur Twitter. Vu que Macron a dit le 31 décembre lors de ses vœux, je veux que nous puissions apporter un toit à toutes celles et ceux qui sont aujourd'hui sans abri. Il y avait peut-être des points de suspension parce qu'il l'avait déjà dit le 27 juillet, mais il n'y a jamais eu autant de sans-abri. Donc, venez nombreux à la manifestation au boulevard de l'Hôpital le 14 janvier.
Lundi 15 janvier, on l'a dit, à 8h30, rendez-vous au Palais de Justice de Paris. Un rassemblement pour la relax pour Philippe Poutou et ses camarades syndicalistes de Ford qui sont poursuivis pour leur action au Salon de l'Auto en 2012 et 2014.
Alors, en sortant de là, le lundi 15 janvier, vous pourrez aller à 11h30 à la Fédération Française du Bâtiment, 33 avenue Kléber, toujours pour ces problèmes, justement, de relax de syndicalistes traînés en justice.
Et mardi 16 janvier à 19h à la Maison des Métallos, 94 rue Jean-Pierre Timbaud à Paris, un débat rencontre autour de la monnaie, un enjeu politique. Et donc, comme les économistes atterrés ont fait paraître ce livre, La monnaie, un enjeu politique, et ben ils sont les invités des Métallos pour en débattre, et avec notamment Jean-Marie Arribé, Esther Jeffers, Dominique Plion et Jean-François Ponceau. Et si ça se trouve, j'y serai aussi, voilà.
Alors Dominique Plion sera aussi le lendemain, mercredi 17 janvier à 19h30, à la Maison des Associations du 13e, 11 rue Caillot, pour un soirée débat avec Attaque 13e. L'évasion fiscale, ses conséquences sociales, ça sera la poursuite de cette émission, où il va parler entre autres de la dégradation de la protection sociale, des services publics et du creusement des inégalités.
Jeudi 18 janvier à 18h, au collège lycée Henri Bergson, 27 rue Édouard Payron à Paris, une manifestation en soutien aux lycéens et collégiens qui ont été victimes des violences policières lors des mouvements anti-télétravail en 2016.
Alors, jeudi 18 janvier à 19h30, salle Résistance 50, avenue de la Résistance à Montreuil, conférence, débat avec Liem Hoang Ngoc, économiste et orateur national de la France Insoumise, le contre-budget de la France Insoumise.
Et jeudi 18 janvier à 20h30 à la salle François Mollet, place Firmin, Gémier, Anthony, un débat sur toujours plus pour les riches qui va complètement dans le sens de ce qu'on a dit ce soir. Manifeste pour une fiscalité juste, soirée débat donc avec Dominique Plion, porte-parole d'Attaque et co-auteur d'une manifeste à quand une fiscalité juste et garante du lien social.
Et voilà, on termine ainsi notre émission. On remercie notre invité Raphaël Prado, porte-parole d'Attaque, qui nous a parlé d'évasion fiscale. On remercie évidemment nos chroniqueurs Jean-Marc et Gaël, Alex au micro et Ludo à la technique. On termine en écoutant Au pays d'Alice d'Ibrahim Malouf, Oximo, Poximo et la maîtrise de Radio France avec la chanson Jamais quand il faut.